Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est un aperçu documenté de ce qui se passe dans les salons ou maisons closes de Suisse que nous proposons aujourd'hui, mais ce n'est pas une enquête approfondie. Deux immersions très détaillées sont parues récemment avec grand succès sur ce thème dont nous nous sommes inspirés et que vous pouvez vous procurer. La retentissante maison d'Emma Becker, qui a passé 2 ans dans un bordel à Berlin et affirme y avoir trouvé une forme d'émancipation. Et il y a 2 ans déjà, beaucoup plus noir, le livre de Sophie Bouillon intitulé « Elle, les prostituées et nous » qui consacre une partie à la Suisse. On pourra aussi, pour l'aspect philosophique, se reporter au livre définitif « Le corps et l'argent » de Ruven Ogien, qui réfléchit à la liberté de donner, de louer ou de vendre certaines parties de son corps. Enfin, pour des données et des faits circonstanciés à Genève, on se tournera vers l'ASPASI, une association qui défend le même objectif depuis près de 40 ans, je cite, « favoriser l'indépendance et l'autonomie des travailleurs et travailleuses du sexe ». Cela passe notamment, dit l'ASPASI, par la possibilité de garder la liberté de travailler seul ou en petite structure indépendante, sans avoir recours à des tiers organisateurs. L'ASPASI regrette également la multiplication récente des salons de moyenne et grande importance, dans lesquels les conditions d'exercice sont souvent dégradées, voire non conformes à la loi. Ce pourrait être une piste aussi pour regarder le travail du sexe comme une profession libérale parmi d'autres, soumise à la dure loi d'un marché incontrôlé, inégalitaire et injuste. Tout de suite, donc, nous partons au Vénusia. Pauline Verdusier et notre reporter, oreille sensible et mineure, s'abstenir.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Ingrid, j'ai 30 ans et je suis roumaine. Je viens de me réveiller. Comme d'hab, je bois mon café et après je commence à me préparer.
Vous buvez votre café à 21h?
Ouais. Non, parce que nous, on est des filles de la nuit. Donc, pour nous, c'est le matin maintenant. Et c'est pour ça. Quand même, ça fait 9 ans que je fais ça. Il y a des nuits que c'est bien. Il y a des nuits que tu es fatiguée parce que tu attends. Voilà. Après, c'est cool. Parce qu'à la fin d'un mois, là, tu vois si c'était bien ou pas.
Et c'est quoi une bonne nuit en nombre de personnes?
Bon, je sais pas. 6, 7.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
La vérité, l'argent, c'est tout. Parce que je suis pas là pour vivre ici. Je suis ici pour travailler pour ma famille. C'est tout. Mon fils, il a presque 11 ans. Et je vis avec maman et papa. Je lui offre tout à mon fils. Il en manque de rien du tout.
Oui, il y a le bonjour. La scène se passe à Genève, dans la salle d'attente du Vénusia, un salon ouvert 24 heures sur 24. En Suisse, un salon, c'est une maison close. Les murs sont couverts de casiers, des femmes en sous-vêtements se recoiffent avant l'arrivée des clients. Les filles de la nuit sont remplacées par le service de jour, qui travaille de 9h à 21h. On remet au client une feuille de papier intitulée « Le menu des plaisirs ». Il liste les tarifs et les services proposés. Forfait 30 minutes, 150 francs suisses, environ 140 euros. Lesbos show 300 francs suisses, environ 280 euros. Supplément champagne, entre parenthèses euros, 50 francs suisses. Supplément sodomie, 100 francs suisses.
Alors en fait, il y a une fille qui ouvre la porte, qui accueille le client, qui lui demande s'il veut voir une fille en particulier ou pas. Si c'est un habitué et qu'il préfère une fille, on lui ramène la fille qu'il veut. Sinon, bah, on présente toutes les filles disponibles. Qui veut ouvrir, ouvre et fait la présentation. Et ensuite, il fait son choix. Dans l'idéal, ça doit durer moins de 5 secondes. C'est vraiment au visuel, quoi. Il voit la fille, il flash dessus, il part avec elle et après, il parle avec elle. En fait, t'as vraiment de toute tranche d'âge. Vraiment, ça va de... Mon plus jeune client, il avait 16 ans. Le plus vieux, il devait avoir 90 et quelques années. Donc, c'est vraiment très, très large, le panel. En journée, c'est plutôt à partir de la quarantaine, je dirais. Plutôt des hommes d'affaires, on va dire, qui viennent entre midi et deux ou entre deux réunions. Un peu plus matures que la nuit, au niveau des âges.
Le client de 16 ans, c'était sa première fois ?
Ah oui, oui, mais enfin, il y en a aussi eu des plus de 16 ans et c'était la première fois. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, oui, oui. En l'occurrence, oui. Il y en a qui sont très, très, très stressés, donc ce n'est pas forcément facile. Il y en a qui... Oui, bah, faut leur montrer, quoi. Il faut prendre les choses en main, mais c'est pour ça qu'on est là aussi, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est un métier à part, ça, c'est sûr. Vu que, bah, voilà, notre corps, c'est notre outil de travail, donc c'est pas toujours facile, mais... Si, en fait, si on aime ça... Ça va. Par contre, il ne faut pas aimer que l'argent. Sinon, tu ne tiens pas. Il faut forcément aimer aussi le contact et les relations, on va dire.
Et vous, c'est votre cas? C'est ce que vous aimez?
Oui, oui, en l'occurrence, oui. Et aussi, l'argent, on ne va pas se mentir. Ce serait difficile de revenir à notre métier maintenant parce que, bah, oui, on a des horaires respectés, mais on vient un peu comme on veut quand même. Tant qu'il y a suffisamment de filles, c'est bon. Donc,
c'est ça qui a fait la différence.
C'est vrai que partir deux semaines par mois, c'est assez sympa, quoi. Tu commences à faire ça, tu te dis que tu fais ça pour le temps de rembourser ce que tu as à rembourser ou le temps de te payer ce que tu vas te payer. Et puis ensuite, tu te dis, ah, c'est pas mal en fait. Et puis tu continues. Et tu continues. Et ça fait 6 ans. Voilà, une chose entraînant une autre, on continue en fait. Puis globalement, l'ambiance entre filles est très bonne, on s'entend bien. C'est un peu la colo de vacances. Ouais, c'est surtout l'ambiance qui fait qu'on aime ou pas les salons en fait. Si on n'aime pas cette ambiance avec plein de filles autour, plein de clients, vaut mieux travailler en indépendante. Puis aussi, c'est sécurisant, je trouve.
Quand ils me font dans ses bras, ils me parlent tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des tous les mots. Des mots de tous les jours. Je vois la vie en rose. Je m'appelle Sophie, enchantée. Je viens en Hongrie. Je suis travaille ici 8 ans, mais si je viens, je peux rester 10 jours. Je apprends le français ici. En Hongrie, je n'ai pas de travail et les salaires en Hongrie, c'est très petit et c'est pas. C'est très très difficile si tu habites toute seule. Donc, je travaille suisse.
Attends, on discute beaucoup entre filles, on fait du sport, on est sur nos téléphones, nos tablettes, on regarde Netflix, on passe nos coups de fil, on fume, on boit des cafés, on chante, on fait des blind tests, on se fait masser des fois entre nous. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On se chouchoute, enfin, on a nos ongles à faire aussi. Donc voilà, et puis on attend. Là, je suis avec du monde, mais à 21h, c'est vrai que moi, j'aime le calme aussi. Donc dès qu'à 21h, je suis en off. Moi, j'ai ma petite routine, dès que je sors d'ici, je vais au restaurant qui est à côté, je me prends un bon plat de pâtes. Donc quand c'est l'été, je me mets en terrasse, et quand c'est l'hiver, bah, je monte à l'appartement, on a un appartement. Je prends mes pâtes, je me mets sur Netflix, je regarde ma petite série, je me détends. Voilà, comme tout le monde en fait. Voilà. Là, tout de suite, c'est un peu calme, mais encore une fois, c'est aléatoire. Il y a des fois où à midi, on a déjà toutes bien bossé. D'autres fois, ça va être là, d'ici une demi. On a eu déjà pas mal d'appels, donc on sait qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont arriver. Mais après, c'est aléatoire. Voilà, c'est vraiment... c'est très aléatoire.
Comment vous êtes venue au Vénusia?
J'ai regardé sur Google, j'ai tapé salon érotique sur Genève et j'ai vu le Vénusia Et je me suis présentée, je me suis fait bingo, c'est là que je veux être, parce que c'est tout ce que je veux, protection, propreté. Je ne travaillerai pas toute seule, justement, je veux un établissement parce que je me sens en sécurité. Ici, la clientèle, elle est propre, c'est une belle clientèle, c'est une clientèle respectueuse. Je travaille aussi avec des filles qui sont propres, respectueuses, c'est aussi important, hygiéniquement aussi. C'est important. Voilà, c'est tout ça qui fait que je suis ici.
Et parfois, vous avez beaucoup de clients dans la journée ?
Oui. Ben, disons que je travaille de 9h à 21h. Je peux en avoir toutes les heures. Et souvent, c'est une clientèle qui est très... comment on appelle ça quand les petites amies ?
Girlfriend experience.
Donc c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de voilà. C'est pour vous dire, on a beaucoup plus de compliments par les clients que par les vrais petits copains. On a l'impression de ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Bah, je suis plus respectueux. Ouais. Après, ça peut être plus violent si c'est un commun accord, hein. Au début, on nous demande ce qu'on fait. Et par exemple, si... j'ai le droit de dire quelque chose ?
Bien sûr.
Oui, si par exemple, il y a un client qui arrive et qui demande la sodomie, bah, seules les filles qui pratiquent la sodomie se présentent. Voilà, donc moi qui ne pratique pas, je ne présente pas. Et, ils viennent avec des fantasmes ou pas, donc voilà.
C'est pas dur physiquement ?
Quand je suis pas là, je me repose beaucoup.
Ben moi, je m'appelle Jessie, j'ai 20 ans. J'ai commencé l'année dernière dans un salon à Cointrin, qui a fermé maintenant. Et voilà, je suis jeune maman, il n'y a pas longtemps. C'est mon premier jour ici, donc je ne connais pas du tout, je découvre. Ça a l'air hyper grand.
Comment vous en êtes venu à ce métier-là, si ce n'est pas indiscret ?
Des dettes à rembourser le plus rapidement possible, et puis beaucoup d'argent d'un coup, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée à l'époque. Et puis maintenant, c'est pour mettre beaucoup de côté pour de certains projets de vie. Bah, acheter une maison, changer de voiture, des choses comme ça.
Et là, vous pensez venir à quelle fréquence ?
Plutôt ponctuel quand j'ai des vacances, parce que j'ai un autre travail à côté. Donc, quand je peux. C'est pas facile, mais surtout avec l'entourage, parce qu'on peut pas trop dire la vérité. Donc, c'est pas évident, c'est stressant. Avec les mensonges, c'est pas très. Enfin, on n'a pas bonne conscience, quoi, mais bon, après, on se dit que c'est. Je fais rien de mal, c'est légal. Donc après, je fais ce que je veux de ma vie aussi, donc. Mais bon.
Enfin, le client rentre par cette porte. Il est directement introduit dans la salle de présentation. Dans cette pièce, lui est présenté le menu. Disons que l'idée générale, c'est qu'en moyenne, c'est 150 francs par demi-heure.
Lisa est la patronne des lieux, ce qu'on appelle dans les romans la mère maquerelle. Elle-même est travailleuse du sexe et elle a exercé en salon avant d'ouvrir son établissement, où elle continue d'avoir quelques clients. Elle prend 30% sur le chiffre d'affaires des femmes qui travaillent pour elle.
Pourquoi on m'appelle Madame Lisa ? Tout simplement parce que, même si je ne suis pas la seule femme mariée, je suis ici la seule madame. Je demande à mes clients d'appeler toutes les filles mademoiselles et de ne jamais les appeler madame. De tout temps, en bordel, la patronne s'appelait madame et les filles s'appelaient mademoiselle, tout simplement. Je suis rentrée dans ce milieu sans y réfléchir. J'ai accepté parce que j'avais grave besoin d'argent. Pour moi, c'était une question vitale pour mes enfants. C'est la raison. J'ai travaillé pendant quelques années à Paris, puisque à cette époque j'habitais à Paris. J'ai rencontré par cet intermédiaire mon mari et je suis venue habiter avec mes enfants ici avec le soutien de mon mari actuel ici. Tout le monde m'accepte comme une chef d'entreprise. Même lorsque je faisais au Vénusia des clients tous les jours, mes amis m'acceptaient en tant que telle, il n'y avait aucun problème.
On va aller à l'étage.
En moyenne, ça va entre 10 et 60 clients par jour. Une fois que la prestation est choisie, à ce moment-là, le client paye la fille. Une fois que la fille a l'argent en main, elle lui propose de prendre une douche. C'est ce qui va lui permettre de prendre son temps pour se déshabiller, le temps de prendre la douche. Elle, à ce moment-là, elle peut sortir de la chambre. Ça lui permet de pouvoir s'apprêter, ranger son argent, noter le client qu'elle fait. Et c'est seulement après qu'elle va rejoindre le client dans la chambre. Et ce, pour la durée qu'il leur est impartie. Un petit peu partout, vous avez dans les couloirs des linges, des draps, de façon à ce que les filles puissent toujours les avoir sous la main.
Et qui s'occupe du linge alors ?
C'est les filles qui s'occupent du linge. C'est la seule façon pour que ce soit fait au fur et à mesure. Sinon, on devrait embaucher quasiment une personne à temps plein pour faire ça. Le linge, il y a des jours où elles ont peut-être 3 machines. Et le lendemain, elles en ont 25. Donc, c'est dur à suivre. Par principe, je donne la chance ici à toutes les filles. Quel que soit leur âge ou leur physique, ou je leur ai toujours dit, toutes les filles ont leur chance. Par contre, de temps en temps, il faut quand même provoquer la chance. C'est-à-dire que, au moins quand tu te présentes avec le sourire, en ayant envie d'aller plus loin. Si tu te rends compte, après avoir vu déjà 2 ou 3 clients dans la salle de présentation et que tu n'as pas été choisi, à ce moment-là, je leur dis bien, tu surveilles, tu regardes toujours les autres filles qui sont avec toi, tu regardes en fonction du client dans quelle direction vont ses yeux, sur quelle partie du corps il s'arrête, et en fonction de ça, c'est toi qui vois si tu dois changer la couleur de tes sous-vêtements, si tu dois mettre des chaussures à talons plutôt que de mettre des plates, si tu dois mettre des bas. La seule chose qui ne dépend uniquement que de toi et en rien de la tenue que tu peux avoir, c'est la tête que tu fais. Donc, s'il te plaît, sois souriante, sois avenante. Tu te présentes pas en traînant des pieds. C'est une activité, le fait de se prostituer, la prostitution, le fait d'avoir un acte sexuel avec un inconnu est quelque chose qui est dur parce que ce n'est pas que physique. Pour beaucoup de points, c'est psychologique. Il faut à chaque fois donner un peu de sa personne pour que la relation se passe bien. On vend un service, c'est un échange de bons procédés. Mais attention, à aucun moment on ne vend son corps.
Et du coup, si elles ne veulent pas aller avec un client, c'est OK, mais ça n'arrive pas souvent, c'est ça ?
Ben, si elles ne veulent pas aller avec un client, elles ont un visuel, un premier visuel du client avec l'interphone lorsqu'il sonne. À ce moment-là, elles ne se présentent pas, tout simplement.
Mais s'il n'y a personne qui veut y aller ?
Ça n'arrive jamais. Parce qu'elles sont assez intelligentes pour pas que ça se fasse, tout simplement.
Dans son livre « Elles, les prostituées et nous », la journaliste Sophie Bouillon explique que les filles travaillent officiellement comme indépendantes et sont libres d'accepter ou de refuser les prestations proposées dans le menu des plaisirs. Mais officieusement, elles ont intérêt à accepter ce qui rapporte le plus. En 2014, le Vénusia a d'ailleurs été condamné par la chambre administrative de la Cour de justice genevoise à une amende de 1000 francs suisses parce que le menu proposait des pratiques à risque, comme les fellations dites naturelles, sans préservatif ou impériales, ce qui implique d'avaler le sperme. Les affiches publicitaires du Vénusia, diffusées dans l'espace public, font aussi parler d'elles. En juin 2019, dans le contexte de la journée nationale de grève des femmes, très suivie en Suisse, le salon a mené une campagne publicitaire avec le slogan « Pour vous, nos femmes ne font pas grève ». Le message a choqué et les affiches ont été retirées.
si une fille accepte, si une fille franchit le pas pour être prostituée en salon, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Elles sont pas stupides, les nanas. Elles savent très bien que si elles se présentent pas, ou moins elles se présenteront, moins elles auront de chances d'être choisies. Donc elles se présentent. Cette activité n'est pas faite pour tout le monde. J'ai plein de filles qui font ça un jour, deux jours, une semaine. Et puis après, soit elles partent et elles ne travailleront plus jamais dans ce domaine d'activité, ou bien elles arrêtent le salon et elles décident de continuer, mais de continuer seules. Et j'ai l'expérience de quelques filles qui ont travaillé chez moi et au bout de quelques jours se sont dit « Oh non, non, Lisa, c'est pas possible. Jusqu'à présent, je travaillais toute seule. Je retourne dans mon studio, je retourne à travailler toute seule. J'ai l'impression que je vais me faire manger si je continue ici. » Lorsqu'elles n'ont pas la chance de pouvoir travailler dans les deux premiers jours, elles vont très vite perdre patience. Elles vont très vite se démoraliser. Donc à ce moment-là, maintenant, ce que je fais, c'est que c'est directement moi qui leur paye leur billet de train pour le retour.
Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans et j'habite à Avignon.
Comme d'autres escortes, Alice n'est restée que quelques jours au Vénusia. Elle a préféré redevenir indépendante.
J'ai été acceptée là-bas. En fait, les personnes, les filles qui sont un petit peu rondes, elles sont acceptées tant qu'elles sont mignonnes, un minimum jolies. Ouais, elles sont acceptées. Après, ma première impression là-bas, c'était qu'il y avait une réelle concurrence, enfin un réel sentiment de concurrence. On était une trentaine de filles pour pas beaucoup de passages dans la maison close. Donc c'était vraiment difficile. Il y a une fille qui présente toutes les filles qui défilent dans la salle. Et nous, on n'a pas le droit de parler. C'est uniquement la fille qui nous présente qui parle. Et ensuite, le client, il nous regarde. Que les filles qui étaient le plus souvent choisies, elles correspondaient aux normes de beauté grandes, fines, ou avec du chien, comme on dit. Justement, le fait que je correspondais pas au standard, je pense que ça a joué aussi sur le fait que les clients ne me choisissaient pas forcément. Je trouve ça dommage de juger uniquement sur un physique. Il y a un avantage par rapport à l'indépendante, c'est qu'au salon, on n'a pas à faire du secrétariat, on n'a pas à chercher des clients, on les attend. Quand on est indépendante, on a affaire à beaucoup de secrétariat, beaucoup de communication par mail, par SMS, par téléphone. Mais en tant qu'indépendante, j'ai beaucoup plus de liberté. Je peux choisir mes propres horaires, mes propres tarifs. Je suis mon propre patron et je préfère ça.
Des militantes suisses réclament une plus grande autonomie des travailleuses du sexe, comme Isabelle Boya de l'association Aspasie.
Bien que la prostitution s'exerce de manière indépendante en Suisse, et ça c'est dans les lois, en réalité, il s'exerce une forme de dépendance dans les salons, puisqu'on a donné des responsabilités aux gérants de, notamment, par exemple, de s'occuper des questions de permis de travail. Donc ce sont les gérants, ou les gérantes de nouveau, qui s'occupent d'obtenir des permis de travail ou des autorisations pour les personnes qui viennent travailler dans leur salon. Ce sont elles également qui les inscrivent, qui prennent rendez-vous pour elles auprès des services de police, où elles doivent s'inscrire. À Genève, c'est obligatoire. Donc voilà, on leur donne des moyens de pression. Et c'est en cela que la loi est paradoxale et qu'elle ne remplit pas entièrement ses objectifs de protection. Et donc, le fait que la loi n'autorise pas deux personnes à travailler ensemble, en toute autonomie, dans un appartement, qui leur assurerait justement une meilleure protection, une meilleure sécurité, notamment, également un partage des charges, évidemment, fait que la seule option possible qu'il reste, c'est de travailler en salon si on ne veut pas, pour autant qu'on ne veuille pas travailler dans la rue ou en indépendante dans un appartement privé. Et donc, de nouveau, c'est les patrons, les gérants d'agences ou de salons qui sont gagnants. De ce côté-là. Et donc, tout ça ne favorise pas l'indépendance et l'autonomie des personnes.
Une alternative au salon et à l'isolement de l'indépendance existe. Cybèle L'Espérance, du syndicat du travail sexuel, a expérimenté l'autogestion entre prostituées.
À Montréal, au début, j'ai commencé comme indépendante, vraiment toute seule, sans connaître d'autres personnes. J'avais regardé des annonces, mais j'avais jamais discuté avec une autre escorte. Donc je savais pas trop comment ça fonctionnait et j'ai appris sur le tas. Après un an de travail comme ça, aller dans les hôtels, j'ai finalement été mise en contact avec un collectif, qui était un collectif d'indépendantes, qui se partageait des appartements, mais faisait aussi un marketing en commun. Donc c'était intéressant parce que moi, à la base, j'avais pas suffisamment de ressources pour pouvoir avoir un appartement dédié à mon activité. Et puis c'est vrai que d'être dans un collectif comme ça de 40 personnes, 3 appartements en commun, avec toute une routine de nettoyage, de prise de rendez-vous, des agendas partagés, c'était très intéressant et il y avait des activités aussi qui étaient faites en commun avec ce collectif. Donc c'était pas exactement comme un salon. On ne travaillait pas en même temps, on n'avait pas des chambres dans un appartement, c'était que des lofts. Mais il y avait une grande solidarité, c'était hyper intéressant en fait de croiser les profils aussi diversifiés d'indépendantes. Je crois que toutes les travailleuses du sexe un peu militantes ont crié à un moment dans leur vie « bordel autogéré », parce que c'est un espèce d'idéal de se dire qu'on serait dans une maison ou dans une association, une façon de travailler ensemble qui permette d'avoir de la sécurité, de choisir nos clients, d'avoir une sororité, de se retrouver entre personnes qui ont un vécu semblable, de ne pas se sentir aussi isolée. Il y a un espèce de rêve d'autogestion, malgré que certaines personnes préfèrent aussi être embauchée, être employée et avoir un salaire, s'éviter toute la partie administrative. Mais ça, ce serait quelque chose qui pourrait être possible aussi dans un bordel autogéré. C'est vrai que la décriminalisation, elle permet de choisir d'avoir des intermédiaires ou non, de choisir d'embaucher des personnes pour faire le secrétariat si on veut, de choisir de collaborer entre nous pour louer un appartement à 4 ou 5 personnes, par exemple. Donc ça, c'est une situation idéale. Jusqu'à maintenant, on la voit en Nouvelle-Zélande, on la voit dans 3 états de l'Australie. Il n'y a pas de modèle comme ça en Europe pour le moment. Moi, je vois vraiment le travail du sexe, je dirais pas comme un métier comme un autre, mais qui devrait pouvoir être exercé comme n'importe quelle autre profession libérale, c'est-à-dire de ne pas avoir plus de contraintes, ni plus ni moins, qu'une personne qui ouvre son cabinet de kiné ou de psy et qui se déclare sous les régimes qui sont déjà existants.
C'était dans un salon au Vénusia avec Pauline Verdusier, réalisation Cécile Lafont, attachée de production Aurélie Marseille, Camille Richir, merci à Jade, Jessie, Sophie, Ingrid, Bambi, Sacha, Lisa, Alice, Pénélope, Jack Hardy et Isabelle Boila de l'Aspasie, ainsi qu'à Cybèle L'Espérance du syndicat du travail sexuel.